sans cesse les interférences et on commence à résonner.
Pollinisons calmement. Bonsoir, vous êtes bien sur la clé des ondes 80.
Bonsoir, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.10. C'est l'émission Achaïra qui démarre, animée par des membres du cercle Jean Barruet de la Fédération anarchiste. Voilà. Pour ouvrir ce moment que nous allons passer ensemble, eh bien nous avons invité, comme à l'accoutumée, André, qui va nous faire part soit de lecture, soit de réflexion, qu'il a mise par écrit. André, c'est à toi.
Eh bien, bonsoir à tout le monde. Oui, ce soir, ce n'est pas un bouquin. Il s'agit d'une écriture à partir d'une discussion qu'on a eue au Cercle Libertaire Jean Barruet. Donc ça s'intitule « Obsolescence de la prison ». Il a tué, elle a volé, il a torturé, elle a blessé, il a détruit des biens, elle a avorté, il a contrevenu aux bonnes mœurs sexuelles, elle a traversé en dehors des clous de la normalité. Il a désobéi à la loi militaire. Elle a escroqué. Il a transgressé la loi sociale. Elle a renversé par mégarde un bébé avec son véhicule. Il a usé de drogue. Elle n'a pas soigné son bébé correctement. Il a publié des idées interdites. Elle a empoisonné ses proches. Etc. 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 La prison, ou un enfermement quelconque, plus ou moins long, sanctionne très souvent ces délits. La prison, par la loi qui condamne, exprime en quelque sorte ce que doit être la normalité sociale. La prison prétend être une limite, provisoire ou perpétuelle, à la puissance sans frein de l'être humain. La craindre, la prison, préviendrait du désordre et maintiendrait les règles. Si on emprisonne encore aujourd'hui, on n'exécute plus sur la place publique, car en France, la peine de mort est abolie, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux autres pays. Guillotine ou rancard, certes, mais transformée chez nous en une longue et sèche agonie carcérale. Et, rappelons-le avec insistance, quand un condamné entre en cellule, c'est aussi un peu sa famille, ses enfants et ses amis qui partagent son internement. La pluralité des délits, la diversité des prisonniers, qui va des politiques de toutes sortes aux droits communs les plus variés, conduisent les familles et les proches de l'extérieur à diversifier leur solidarité, leur soutien, à moduler leur accompagnement, l'accompagnement des emprisonnés. Cependant, si l'on veut prolonger une réflexion sur ces questions, il s'agira de ne pas être trop angélique et trop naïf et de reconnaître qu'il y a des déviants dangereux et qu'il faudra les maintenir fermement, le temps nécessaire, les rendre inoffensifs. On devra donc les maîtriser en attendant un retour au calme, les maîtriser sans heurts excessifs. Car une autre réalité devra être énoncée, le prisonnier ne peut jamais être réduit à sa faute, faute entre guillemets. Pour autant, après le meurtre, après le vol, après le délit, etc., une fois que le mal aura été accompli, le mal ou ce que l'on nomme tel, et que l'on ne pourra plus revenir en arrière, il s'agira d'imaginer, d'inventer d'autres façons de faire retrouver la vie ordinaire, d'autres pratiques que l'emprisonnement qui désespère. Si l'essentiel consiste à rétablir un équilibre rompu, quelles seront les autres possibilités à proposer? Nous savons que notre inventivité à gérer les écarts de conduite et les conflits montre surtout une pauvreté d'imagination, révèle notre impuissance à innover. Parce qu'il sera d'abord demandé aux coupables de rendre des comptes à ses égaux devant qui il sera entendu en jugement, car il faudra donner des mots au mal, l'expliquer autant que possible. Le manque d'expression orale est souvent la cause du passage à des actes répréhensibles. Il faudra que le coupable dédommage les victimes dans la mesure où on voudra tenter de réparer ce mal qu'il compense parce que, dans la société, Il y a comme un contrat implicite, un contrat de bon comportement entre les humains. Le prisonnier devra donc, pour faire retour à la situation antérieure, tenter, si possible, une réhabilitation, une sorte de rachat social aux yeux des autres, après avoir calmé leur colère et apaisé le scandale ressenti. Or, un prisonnier a rarement honte de ce qu'il a fait, et il n'a pas souvent non plus de regrets, si ce n'est celui de s'être fait prendre. Le contrat implicite, c'est qu'une certaine justice doit régner entre nous, les humains. Pas n'importe quelle justice, certes. Par exemple, pas la justice actuelle qui est surtout une justice de classe, une justice de riches. Oui, il n'y a qu'à constater que c'est une majorité de pauvres, de malades, de malchanceux qui peuplent les prisons. Les riches, les puissants y échappent presque toujours. Ils ont les moyens de détourner les coups. Mais nous dirons aussi qu'une justice directe et populaire risquera d'être plutôt brutale, expéditive, ressemblant moins à une justice qu'à une vengeance sociale ou personnelle. Les victimes ou les proches, dans la colère, quand elles le peuvent, demandent sanctions et punitions, deux termes que nous garderons de confondre. Elles demandent surtout réparation par des indemnités financières, par la prison, par la mort, par la volonté d'équilibrer les souffrances, jadis par différentes tortures effroyables. Or, voit le jour actuellement l'idée que la justice devrait plutôt prendre soin tant de la victime que de celui ou de celle que l'on nomme coupable. Car punir, ce n'est pas faire réparation. C'est souvent se précipiter dans une réplique rapide et quasi pulsionnelle. D'ailleurs, est-ce que la punition console ? Est-ce que la punition aide la victime ou ses proches à faire le deuil des dommages subis? Et que recouvre cette expression de journaliste en mal de vocabulaire et dont on nous rebat les oreilles, faire le deuil? Pourtant, aujourd'hui, l'institution prison est remise en question car elle n'apporte aucune solution positive. Au pire, elle aggrave les situations. La société civile est donc à la recherche d'une autre justice, une justice réparatrice, d'une alternative réparatrice à la prison. Crier sans plus, avec véhémence, abat les prisons, soulage et réconforte, à moindre frais, une bonne conscience humaniste. À un niveau plus politique, mais il est dit que tout est plus ou moins politique, dans des pays où les droits humains ont été plus que bafoués, avec des morts à ne plus savoir les compter, en Afrique du Sud, en Espagne, pendant la guerre civile, au Rwanda et dans différents pays d'Amérique latine, etc., des démarches de vérité et réconciliation, des actes d'oubli ou de pardon volontaire, des actes commis, ont été mis en place avec plus ou moins de succès et d'efficacité, sans prendre suffisamment en compte, c'est une certitude, la souffrance des victimes et souvent sans leur accord. Il s'agissait alors, il s'agit encore, et essentiellement, de maintenir une paix sociale pour continuer de vivre, oui, continuer la vie quotidienne. Ceux qui tiennent le pouvoir d'État savent que la prison est un instrument efficace pour brimer ses ennemis politiques. Mais il arrive également que la prison soit un lieu de combat. Rappelons l'appel du 9 octobre 1909, quand le Industrial Workers écrivait « On recherche des hommes » pour remplir les prisons de Spokane. Ça se passait aux États-Unis. Oui, c'était le cri des roublis, remplissez les prisons. Cri paradoxal quand il s'agissait de réclamer la liberté de parole dans les rues. Mais rien n'est simple. D'autres ont crié la liberté ou la mort. Ils préféraient cette dernière en livrant un dernier combat pour la liberté. Ailleurs, d'autres encore ont dit que l'on pouvait se sentir libre en prison et s'y tenir bien droit quand certains se voûtent avec le temps sous le poids de la peine à subir. Pierre Martin parlait de la prison comme d'une délivrance. Je vous envoie au bouquin « Réfractaire à la guerre d'Algérie ». Mais il s'agissait alors de passer de l'arbitraire le plus pur à un état de droit. Si j'évoque ces différents regards pour réfléchir sur l'enfermement carcéral, c'est moins pour dire et décrire une situation de fait que pour ouvrir l'horizon des possibles, pour poursuivre un débat et le transformer en combat. Et puis, puisqu'on me dit que j'ai un peu de temps, si nous continuons la réflexion, oui, qui dit prison dit en amont police. Voici ce qu'écrit Pierre Banse dernièrement dans un article intitulé « Maintien de l'ordre en anarchie, droit, justice et police libertaire ». C'est extrait de autrefutur.org. Pour un syndicaliste de base, de lutte, autogestionnaire, anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. Ça date du 22 février 2012. Donc je cite « L'idéal d'utopie ne sera probablement jamais atteint. En attendant, il faut vivre en s'en approchant. Même durant le bref été de l'anarchie en Catalogne, la police ne disparut pas. Il faut donc, pour éviter que ne réapparaissent les travers du droit de la force régalienne, que les citoyens conçoivent une police différente, une police qui soit leur émanation par élection ou tirage au sort, et qu'ils contrôlent complètement par des mandats précis la révocabilité. Une police dont la mission sera de ne jamais intervenir quand des solutions pacifiques seront possibles, dont la seule finalité sera la protection de la population contre les faiblesses inhérentes à l'être humain. Évidemment, une délégation de la police aura pour but, comme dans toutes les sociétés, de protéger l'ordre nouveau. Serait-il révolutionnaire et anarchiste contre les agissements de la contre-révolution qui, n'en doutons pas, sera longtemps active et probablement cruelle. Autant dire que, là aussi, les procédures de désignation, de mandat, de contrôle et de révocation devront être drastiques pour éviter les dérapages que connurent les milices lors des révolutions passées. Voilà, tout le monde peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est un bon débat pour continuer. Allez, dormez bien, car la fenêtre de votre chambre qui donne sur la nuit n'a pas encore de barreaux. Donc ce texte a été écrit suite à un débat au Cercle Libertaire, Jean Barruet. Et vous pouvez le retrouver sur le site Cercle Libertaire JB33. Bonsoir à tous.
Bonsoir André. Bonsoir. Merci. Eh bien, on continue avec un peu de musique.
Sur le plateau laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10, c'est l'émission Achaïra animée un jeudi sur deux de 21h à 23h par des membres du Cercle Libertaire Jean Barué de la Fédération Anarchiste. Après avoir entendu les points de vue donc sur, d'anarchistes sur la prison, bien ce soir nous allons parler de ce qui se passe en Espagne. On va parler aussi de certains aspects des élections qu'on a tendance à oublier. Pas les élections, certains aspects des élections. De la rencontre entre les représentants syndicaux et le Premier ministre. Il y aura également la leçon d'autodéfense intellectuelle de Philo. Vers 22h15, Denis nous fera participer au goûter des généraux généreux dégénérés de Boris Vian. Et on parlera également d'un événement qui se passera, je crois, au début du mois de juillet, qui s'appelle « J'aime la résistance ». Voilà. Donc, je vous propose de commencer par l'actualité internationale. Et j'ai choisi de vous parler d'un événement qui avait été évoqué il y a plus de mois dans cette émission, qui s'est passé donc en Andalousie, dans la province d'Andalousie en Espagne, où le gouvernement autonome andalou avait mis en vente les terres d'un domaine agricole de 400 hectares et le dédier donc à des intérêts privés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Andalousie, comme dans beaucoup d'autres endroits en Espagne ou en Europe, il y a des gens qui n'ont pas de boulot, et notamment des travailleurs agricoles journaliers, qui ont décidé de s'opposer à la vente de ce domaine, estimant que, bien sûr, il était beaucoup plus normal et sensé de que ce soit eux qui puissent avoir un travail grâce à ces terres, plutôt que de les livrer à des spéculateurs. Pour cette action, ils étaient appuyés par le syndicat des ouvriers agricoles, le SOC, qui est un syndicat qui pratique régulièrement l'action directe. Donc, ils ont occupé sauvagement, comme on dit, les terres, en commençant bien sûr à les cultiver, avec l'aide d'autres journaliers des environs. Ils ont commencé à assurer leur autoconsommation, le ravitaillement de la commune. En quelque sorte, ils renouaient avec ce qui s'était passé pendant la révolution de 1936 et les collectivisations. Fonctionnement collectif, assemblée générale quotidienne pour prendre toutes les décisions, s'organiser, organiser le fonctionnement des différentes commissions créées, ceux qui s'occupent des repas, du nettoyage, de la communication avec les médias, de la logistique. Et bien sûr, également, une réflexion sur un projet de coopérative de résistance qui permette d'assurer les besoins de celles et ceux qui sont frappés par la crise dans la région. Le gouvernement autonome andalou a été réélu le 25 mars. Et contrairement à la plupart des autres régions d'Espagne, il est resté aux mains des socialistes du PSOE, alliés aux écologistes et communistes de Izquierda Unida, c'est-à-dire la gauche unie, ce qui équivaut à peu près à notre front de gauche français. Donc, un gouvernement de province différent de celui de Madrid ou de Barcelone. On pourrait donc s'attendre à ce que ce gouvernement au moins laisse faire ce qui se passe au niveau de cette occupation. La première mesure prise par ce gouvernement a été de confirmer la vente aux enchères du domaine et donc d'expulser les journaliers installés sur le territoire. Une expulsion musclée, bien sûr. Comme dans les années 30, les paysans revendiquaient la terre à ceux qui la travaillent, ou terre ou liberté. Et qu'est-ce qu'ont répondu les autorités ? Terre aux riches et liberté de se faire exploiter aux pauvres. Sauf que cette fois-ci, ces autorités ne sont pas de droite, ni fascistes, mais de gauche. 1 million de chômeurs andalous peuvent ainsi apprécier la gestion économique de cette gauche qui n'hésite pas à donner des gages de bonne volonté à la classe possédante. Des illusions, personne n'en avait sur le PSOE, que le mouvement des indignés, il y avait bientôt un an, avait dénoncé. Quant à la gauche unie, les indignés qui ont voté pour eux n'ont plus qu'à s'indigner davantage de ce que permet de faire en leur nom un parti censé les représenter parce que petit. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, le parti n'a qu'une seule aspiration, être aux affaires et gérer le capitalisme. Et pour les exploiter, un seul intérêt, bien sûr, en finir avec le système capitaliste. Ces informations, je les ai tirées d'un numéro du Monde Libertaire, donc le numéro 1672, qui n'est pas le dernier, mais qui suit depuis le début cette aventure. On sait juste que les paysans ont réussi à réoccuper les terres. Prochaine émission, je vous dirai ce qu'il en est advenu.
La suite.
La suite. Hein.
Avec impatience.
Voilà. Parler de la rencontre ou...
Il n'y a pas grand-chose malheureusement à dire, hein, puisque ce que l'on sait, c'est que au niveau social, un des gestes de ce gouvernement provisoire, donc puisque on sait qu'il ce sera les élections législatives qui vont lui donner son pouvoir. Mais donc ce gouvernement provisoire a reçu les organisations syndicales, donc un premier jour les organisations dites représentatives dans l'ancien système, et puis le lendemain les 3 nouvelles, et puis ces rencontres se sont faites sur le mode, on va dire, convivial, quoi, hein. C'est on vient exposer des discussions et puis on fera le point plus tard avec les ministres concernés. La question, évidemment, c'est que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait de quoi que ce soit, mais en même temps, quand il y a des rencontres de ce type-là à froid, sans mobilisation sociale, sans information des salariés, on sait très bien quelles sont les propositions, quel est le décalage avec le mouvement social, sur le mouvement des retraites, par exemple, qui était quand même un mouvement majeur, donc qui peut-être explique la Entre autres, la défaite du candidat en place, malgré les sondages et la mobilisation de son camp. Le candidat socialiste n'a jamais envisagé de revenir là-dessus, quoi. Hein. Tout au plus, parlait-il des personnes qui avaient quasiment sans discontinuer travaillé depuis 18 ans, sauf que, évidemment, ceux qui n'ont jamais été au chômage dans cette période-là, ils sont pas aussi nombreux que ça. Donc la mesure risque de faire un plaf, même pour ceux qui ont travaillé. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont en train de faire leurs calculs, ils sont aperçus que ça les coûtait beaucoup moins cher qu'est-ce qu'ils avaient prévu, tellement ils avaient taillé juste le costume. Voilà, et donc, comme il n'y a pas de mouvement social, eh bien, il est clair que globalement, les organisations syndicales n'ont porté aucune revendication. Alors, voilà. De manière en termes de méthode, c'est clair que quand ça se passe comme ça, c'est à froid. Voilà, donc, peut-être à suivre, mais surtout, ce que l'on sait, voilà, c'est l'expérience des années 80, c'est-à-dire que les salariés, pendant un temps, se sentent rassurés d'avoir chassé celui qu'ils estimaient être un des acteurs de leur plaie. Et puis, ils vont s'endormir. Pendant longtemps, sous l'époque Mitterrand, il faut laisser du temps au temps. Ça, c'était du côté du gouvernement. Et puis, il faut donner sa chance. Leur chance aux socialistes. Voilà, c'était le discours qu'on a entendu. On a vu, d'ailleurs, pendant cette période-là, c'était la période où on a le plus libéralisé. Et donc, on peut penser, effectivement, que, vu comment se comporte la bourse, eh bien, c'est une bonne chose que ça soit le Parti Socialiste qui soit au pouvoir, parce que ils estiment, à raison sans doute, au niveau des détenteurs du capital, eh bien, que ils seront mieux à même que le clan Sarkozy à faire passer les futures réformes. Voilà, dans le calme et dans la co-gestion avec les organisations syndicales. Voilà, et donc tout le monde pour l'instant est en train de focaliser sur la question des hauts salaires, qui est certes choquant, mais globalement, il y a peu de chances que ça change le quotidien des salariés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire les inégalités. Mais voilà, le débat sur quel est le bon écart entre les plus riches et les plus pauvres, il mérite d'être débattu. Donc là, les socialistes ont fixé de 1 à 20. Voilà, est-ce que les gens s'emparent de ce débat-là, les revenus pour vivre? Alors, qu'est-ce qui justifie que, encore aujourd'hui, bien une personne soit X fois rémunérée comme un autre pour le même temps de travail, quoi.
Ou que certains aient un parachute doré, même s'il est moins doré. Bon, quand un ouvrier d'une boîte se fait licencier, on ne peut pas dire que son parachute soit très doré et qu'il n'a pas non plus de matelas pour le recevoir.
Et là, il semble qu'il va y en avoir pas mal d'entreprises qui vont fermer. Oui, et en plus, souvent quand même, quand un patron s'en va, c'est qu'en général, il n'a pas fait satisfaction. C'est pas qu'il s'en va de lui-même. Et donc, c'est une forme de récompense, alors que globalement, un salarié qui est chassé d'une entreprise, parce que c'est le cas quand il a fait ce que l'employeur estime une faute, il n'a aucune indemnité.
Juste, je manque un peu d'infos, mais demain, on est le 1er juin. Oui. Par rapport au Fralib, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expulsion des grévistes pour le 1er juin. Où ça en est? Moi, j'ai pas de dernière info.
J'ai vu des appels à soutien, mais c'est tout. J'ai pas d'info très précise sur.
Voilà, parce que il y a eu quand même la direction a envoyé à la mi-mai des gens très musclés armé de cannes de combat pour essayer de casser l'occupation et créer un climat de violence défavorable aux salariés devant les tribunaux. C'est pas la première fois que la direction essaye d'intimider, de provoquer les grévistes. Elle l'avait déjà fait en novembre 2011. Ils avaient envoyé 5 grévistes aux urgences et les pompiers avaient dû intervenir à 2 reprises. Les salariés disent qu'ils n'entendent rien lâcher, ne pas détruire l'outil de travail. Ils attendent surtout une intervention du gouvernement. Voilà,
Donc ce qui a priori c'est une négociation, la direction du groupe Unilever qui a accepté de rentrer en négociation, de repartir en négociation quoi.
D'accord.
Donc il y a un sursis qui est celui du temps de cette négociation et donc il semblerait qu'il voilà. On reparle d'un nouveau projet viable pour le site.
Oui, mais pas le projet de création d'une société coopérative ou d'une SCOP, quoi.
Non, là c'est...
Ça va nous passer à autre chose. Hein.
Voilà, ce serait plutôt... Alors, est-ce que c'est un repreneur? Je me rappelle... voyons. Il refuse de... Voilà, la direction Unilever, donc, est sur un autre projet parce qu'il refuse de céder la marque aux salariés voilà. et le fonds, quoi.
D'accord.
Donc pour ça, il préfère plutôt chercher d'autres investisseurs. Donc il lâcherait pas la marque, il serait prêt à lâcher peut-être des machines. En compensation, si jamais il y aurait... Voilà, donc il y a des... Mais bon, en gros, on est dans une phase de table ronde, l'éléphant reste sur sa défense.
Sur sa défense.
Voilà.
Faire une petite pause.
Voilà. On va faire infuser le sachet de Fralib.
Oui.
Et voilà, donc ça c'était le...
Thank you. clic, tes claques, ta cloque, tes chics, les tigas, tes chics, ta toque, ta boîte, ta toque, tes flics, tes slics, tes pecs, ta jack, ta tech, la tête, ta clé, tes clics, tes cloques, ta cloque, tes chics, les tigas, tes chics, ta toque, ta boîte, ta toque, tes flics, tes slics, tes pecs, ta jack, ta tech, la tête, ta clé. On vibre à chaque fois, les retrouve à l'abîme. Quand les potes de bonne foi, froissés, le sublime, comme un coup dans le pot, sur le sous-bobé. Et sur le feu, ce soir, j'ai tout ça pour la fille. Matin, les matons, au matin, le matou, au marin, le mourant du miroir des marins. Où nous tournons mutins, les mourants emmurés, au mouvement des moulins, la moiteur des modules. Impassible à tard, la fin des tapis. Ces états de ma bulle et le vent, coupable minard avec ses crabes de terre, la vignole est faite dans la fable basse. Puis que te bosse, costume du choc, puis que te choque, les côtes séchées. Puis que ses bottes te choquent, la chine et déchirée, tu graves la colle dans le vent. Toi, coupable à la porte du bar, te débat en chèque, c'est comme dans la balle. Sur le terre, on pose un carbone sur ma traque. Quand un message qui m'a donné ton vague.
C'était La Collector. Voilà, vous êtes sur la clé des ondes de 90.10, c'est l'émission Achaïra, jeudi sur deux, animée par des membres du Cercle Libertaire Jean Barruet de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez intervenir à l'antenne en appelant au 05 56 50 69 99 ou bien nous écrire à cercle-jean-barruet@fédération-anarchiste.org. Alors, je continue avec les élections, sous un aspect dont on ne parle pas souvent. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans votre circonscription aux affiches électorales, mais moi, j'ai été quand même assez surpris de voir apparaître des choses que je ne connaissais pas. Alliance écologiste indépendante, mouvement écologique indépendant, Debout la République, Solidarité et Progrès, Cap 21, Le Nouveau Centre, Alliance Royale, Centre pour la France. On se dit, ah, on est passé à côté de quelque chose. Ces gens ont certainement des choses intéressantes à dire aux électeurs. Pourquoi diable cet embouteillage à la porte des législatives ? Eh bien, il faut savoir que les voix, ça rapporte. Le financement public des mouvements politiques est basé sur le nombre de voix récoltées au premier tour des élections législatives et au nombre d'élus. Au premier tour, chaque voix rapporte environ 1,70 € au parti qui présente le candidat, à condition de faire plus de 1% des suffrages dans au moins 50 circonscriptions. On comprend mieux pourquoi tous les partis ont intérêt à présenter un maximum de candidats. On comprend mieux pourquoi aussi certaines ne font parler d'eux qu'à la veille des élections législatives. Un autre exemple, qui n'est pas présent en Gironde, le trèfle Néna. Le trèfle Néna, en fait, ce sont les nouveaux écologistes hommes, nature et animaux. Intéressant. Voilà un mouvement qui a présenté des candidats en 2007. Et qui sur cette base, donc aux législatives antérieures, et qui sur cette base a reçu chaque année un peu plus de 150 000 euros, plus exactement 163 000 euros en 2011, dans le cadre du financement de la vie politique. Et donc ce sont les gens qui payent les impôts qui financent ces partis-là. C'est tout le monde. À tout le monde, ils reviennent de financer les politicards pour voir s'étaler leur prétention grotesque à représenter les populations. Cette disposition date de 2003. Il faudrait aussi ajouter le versement a lieu chaque année, pendant 5 ans. Que ce versement est complété par une somme de plusieurs dizaines de millions d'euros, 40 millions par exemple en 2007, répartis proportionnellement entre les députés se déclarant au parti concerné. Et, une fois élus, ces députés vivent au crochet des populations. 7 100 euros bruts par mois, dont une indemnité de fonction non imposable, 1420 euros, soit la bagatelle de 5189 euros. À cela, il faut ajouter une indemnité représentative de frais de mandat, 6400 euros bruts par mois, pour les diverses dépenses liées au mandat, voiture, loyer, frais de réception, d'habillement, et on a envie d'ajouter, et papier toilette, tant qu'on y est. Pourquoi pas ? Il convient en effet, lorsqu'on vit de l'esbroufe consistant à prétendre incarner la nation tout entière, de ne pas vivre comme de vulgaires prolétaires. Il y a aussi des avantages. Les collaborateurs, pas moins de 9000 euros bruts par mois. Accès gratuit à l'ensemble du réseau SNCF en première classe. Déplacement gratuit à Paris en voiture, de l'Assemblée ou en taxi. Toujours dans le cadre des missions du parlementaire, bien sûr, on le croit. Carte de métro gratuite. Remboursement des forfaits de 5 lignes téléphoniques, d'un abonnement Internet. Celui qui est tout en haut, là, le président de l'Assemblée nationale, lui, il a une indemnité de plus de 14 000 euros. Et il bénéficie d'un logement de fonction luxueux. Bon, on arrête, on arrête. Que se passerait-il si le salaire des députés était de 2000 euros et s'il avait, comme tout le monde, à payer eh bien, ses déplacements en bagnole, en métro, ses lignes, ses abonnements Internet, ses lignes téléphoniques, voilà, que se passerait-il ? Ce qu'il y a de fou dans ce système dit démocratique, dont le rôle essentiel est quand même de donner un semblant de légitimité au capitalisme, c'est qu'il y a encore des gens qui votent. Voilà ce que j'avais à dire sur cet aspect-là des élections.
C'est pas facile de se départir de certaines habitudes.
Ouais. Ah. Écoute, ah bon.
Ben j'imagine que c'est qu'est-ce qui conduit certains à toujours reprendre le même chemin. Voilà. Mm. Bon. Parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'arguments sérieux, quoi. Hein, mais soi-disant que quelqu'un est mort pour ça. Alors, on peut reparler des élections à travers les sondages dans la chronique. Alors, je sais pas si on la.
Oui.
Si on la lance maintenant.
Oui, on peut la lancer maintenant. Hein,
voilà, on va la.
Oui, oui, tout à fait.
On va lancer la 20e leçon d'autodéfense intellectuelle. Mmh. Voilà, donc c'est la 20e chronique raisonnable, toujours pour apprendre à soumettre à la critique les informations reçues, prévenir les manipulations et démonter les croyances. Car être libre, c'est ne plus avoir peur et être responsable de sa vie. Continuons donc ensemble l'étude des pièges d'un usage malicieux des mathématiques. Apprendre à compter pour ne pas s'en laisser compter. Rappelez-vous l'émission précédente. Nous avons vu un des critères de base de la statistique avec l'étude des sondages et le choix de l'échantillon. Constituer des échantillons et les qualifier est une des applications importantes de la statistique. Il s'agit d'avoir des informations sur des populations très grandes à moindre coût, de déduire des propriétés d'une population à partir de celles d'un échantillon. Vous rappelez que nous n'allions pas goûter toute la soupe pour savoir si elle était trop chaude, mais nous nous contentions de goûter une partie à travers une cuillère. Mais l'échantillon doit pouvoir être jugé représentatif de l'ensemble de la population. Et nous avons vu des cas où il ne l'était pas. Lorsque nous goûtions dans notre assiette sur le bord de l'assiette, eh bien, qui était en général plus froid, cela n'était pas un échantillon représentatif. On retiendra donc qu'un bon échantillon représentatif d'une population doit être suffisamment grand. C'est sa vertu quantitative. Et il doit être non biaisé. C'est sa vertu qualitative. Pour que l'échantillon soit non biaisé, on considère qu'il doit être choisi au hasard. Dans cette émission, nous allons continuer notre étude des sondages et échantillonnages qui fleurissent dans les médias en cette période électorale. Nous allons aborder la notion de marge d'erreur. Prenons un exemple. On interroge 2000 personnes en Gironde en leur demandant de répondre par oui ou par non sur une question d'opinion claire et précise. Le sondage se fait par téléphone et les personnes sondées ont été choisies au hasard par un ordinateur dans un annuaire téléphonique du département. Ce sondage semble répondre à la norme que nous nous sommes fixée. Pourtant, ce sondage aura toujours un biais puisque les plus démunis n'ont pas de téléphone. Les sans-logis ne sont donc pas correctement représentés dans cet échantillon. Un bon sondage dira donc qu'il est précis avec une marge d'erreur de 5% par exemple. Si l'on parle de la popularité de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, établi en janvier 2012 par sondage à 49%, et que l'on voit qu'elle est établie en avril 2012 par le même sondage à 53%, avec une marge d'erreur de 5%, on pourrait affirmer que la popularité du président de la République française était établie entre 44% et 54% en janvier 2012, et qu'en mars 2012, elle était établie entre 48% et 58%. Mais de là à dire qu'il y a eu une hausse, on voit que on pouvait être plus haut en janvier dans la fourchette que et plus bas dans la fourchette en mars, même si les sondages avaient donné d'autres résultats avec la marge d'erreur. La marge d'erreur dépend de deux facteurs, le prélèvement de l'échantillon et la formulation des questions. Une bonne question n'est ni biaisée ni ambiguë. Tous les sondés doivent la comprendre de la même manière. Tous peuvent y répondre et tous consentent à y répondre sincèrement. Par exemple, un sondage sur la sécurité qui poserait ainsi la question « Aurait-il une valeur ?» Compte tenu de l'augmentation du nombre de dangereux anarchistes et de l'efficacité démontrée des matraques Bing pour les ramener à la raison d'État, apprévoyez-vous le remplacement des matraques désuètes de la police par les matraques économiques et ergonomiques de marque Bing ? Bon, d'accord, ici le biaisage de la question saute à l'oreille. Mais ce n'est pas toujours aussi facile à voir ou à entendre. De nombreux facteurs interviennent. L'ambiguïté de la question, les termes employés, la nature de l'information recherchée, voire l'identité du sondeur. Par exemple, lisez-vous Le Figaro ? Peut sembler clair et précis. Pour autant, il y a plusieurs interprétations. Le lisez-vous tous les jours ? De temps en temps ? Souvent ? En partie, en entier, etc. De même, si vous demandez « Consommez-vous beaucoup d'alcool ?» La réponse sera différente pour chaque personne, suivant son appréciation de ce qui est beaucoup. Nous noterons aussi l'existence de débats sur la légitimité des sondages en politique, les sondages d'opinion et les sondages préélectoraux. Ce débat inclut la place des sondocrates dans la société. On remarquera qu'en physique quantique, on reconnaît que l'observateur modifie l'expérience observée. Ainsi, le sondage modifie-t-il ce qu'on appelle l'opinion. On lira aussi Bourdieu qui remet en cause les présupposés du sondage opinion. C'est-à-dire tout le monde a une opinion sur tout, toutes les opinions se valent, il y a un consentement sur les problèmes et sur les questions à poser. Pour Bourdieu, l'opinion publique que dévoilent les sondages est un artefact pur et simple dont la fonction est de dissimuler que l'état de l'opinion à un moment donné du temps est un système de force et de tension et qu'il n'est rien de plus inadéquat pour représenter l'état de l'opinion qu'un pourcentage. Des données recueillies par les sondages, on peut tirer des analyses et établir des liens entre certains caractères. Pour autant, on retiendra qu'il y a une grande différence entre corrélation et causalité. Ensuite, on remarquera un phénomène statistique étonnant que l'on appelle la régression vers la moyenne. La corrélation signifie simplement que deux données sont liées, que leurs valeurs sont dépendantes l'une de l'autre. Par exemple, il y a une corrélation entre le tour de poitrine d'une personne et sa taille. Mais le fait d'avoir établi une corrélation ne signifie pas qu'on ait trouvé une relation de causalité. On retrouve ici le principe de rhétorique post hoc ergo propter hoc. Ceci suit, donc ceci est la cause de, la conséquence de. Si deux variables A et B sont corrélées, cela peut signifier différentes choses. Que A cause B, mais aussi que B cause A. Ou que A et B sont accidentellement liés sans en voir entre les deux de lien de causalité. Ou enfin que A et B dépendent d'un troisième facteur C. Établir ces causalités est très difficile. On a ainsi des études liant consommation de cannabis et mauvais résultats scolaires. Mais de là à dire qui est la cause de quoi ? D'autres études lient le nombre de cigognes sur les toits des maisons et le nombre d'enfants vivant sous ce toit. Qu'en déduire ? Sinon, peut-être que les familles nombreuses ont des toits plus grands. Bertrand Russell raconte que des moines en Chine croyaient que les éclipses de lune étaient causées par un chien céleste qui essayait d'avaler la lune. Pour l'en dissuader, les moines tapaient sur des gonds gigantesques jusqu'à ce que le chien lâche la lune. Depuis des millénaires, cette technique avait fonctionné. Le chien avait toujours fini par recracher la lune et l'éclipse avait cessé. On voit que la confusion entre corrélation et causalité peut être source de superstition, comme le phénomène de régression vers la moyenne. Ce dernier phénomène a été repéré par un des pionniers de la statistique, Francis Galton, entre 1822 et 1911. En étudiant les liens entre la taille des pères et la taille des fils, il a trouvé une corrélation. Des pères grands tendent à avoir des enfants grands. Mais il constata aussi que des pères très grands tendent à avoir des fils moins grands qu'eux, de même pour les plus petits qui tendent à avoir des fils moins petits qu'eux. Nous avons ainsi une corrélation imparfaite. Des valeurs exceptionnelles ont tendance à être corrélées avec ces valeurs moins exceptionnelles. C'est ce qu'on appelle la régression vers la moyenne. On dit que les sportifs de haut niveau redoutent d'être montrés en première page des grands quotidiens sportifs. En effet, y être fait suite à l'obtention de résultats exceptionnels. Et cela sera suivi de résultats moins exceptionnels. Mais ces résultats ne sont pas le fait d'avoir été mis en première page, par exemple, de l'équipe. Lors de la prochaine émission, nous verrons l'usage des illustrations et graphiques pour présenter ces collectes de données. Enfin, n'oubliez pas les conseils des émissions précédentes. Ces conseils vous sont donnés pour laisser le moins de prise possible à l'émotion manipulatrice. Et retrouvez sur le site libertaire Jean Barruet, cercle libertaire jb33.free.fr, nos chroniques en référence au petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. Alors, à dans 15 jours. 15 jours cette fois-ci.
Boulevard de la Chapelle où passe le métro aérien. Il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens. Les clochards affamés s'endorment sur les bancs. Les deux vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour le premier venu. Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie. Boulevard Richard le Noir, j'ai rencontré Richard le Blanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici, voilà ce qu'il m'a dit. Les flics viennent de passer, histoire de se réchauffer, ils m'ont assaisonné. Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Boulevard des Italiens, j'ai rencontré un Espagnol. Devant chez Dupont, tout est bon après la fermeture. Il fouillait les ordures pour trouver un crouton. Encore un saliopin, dit un monsieur très bien qui vient manger notre pain. Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour le premier venu. Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie. Boulevard de Vaugirard, j'ai aperçu un nouveau-né. au pied d'un réverbère dans une boîte à chaussures. Le nouveau-né dormait, dormait à quelle merveille de son dernier sommeil. Un vrai petit vénard, boulevard de Vaugirard. Au jour, le jour, à la nuit, la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour le premier venu. Au jour, le jour, à la nuit, la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie.
Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10. C'était Jean Guidoni qui chantait. Et bien maintenant, c'est le moment du goûter. Du goûter des généraux que Denis va mettre en voix pour notre plus grand plaisir. Denis, tu nous entends ?
Oui, 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 of course.
Of course, eh bien, c'est à toi.
Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voici donc la suite de votre série littéraire, Le goûter des généraux de Boris Vian. Pour les auditrices et auditeurs qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, je rappelle que nous étions chez le général James Audubon Wilson de la Pétardière Frenouillou, qui, à 55 ans, vit toujours chez sa vieille mère. Audubon a précédemment invité pour un fastueux goûter les généraux Juillet, l'envers de la veste, Dupont d'Isigny et enfin Monseigneur l'archevêque Roland Tapecu, afin que ce dernier leur donnât sa bénédiction pour déclarer la prochaine guerre. Cependant, un petit détail reste en suspens. Contre qui vont-ils donc la déclarer, cette guerre? Nom de Dieu! Bien, nous sommes dans une salle de réunion, chez Plantin, derrière le rideau. Devant le rideau, une table, une chaise, un téléphone. La secrétaire de Plantin, Francine, y est installée. Robert, l'ordonnance d'Audubon, est assis sur la table et lui fait visiblement deux doigts de cour côté jardin.
Vous aurez beau dire, vous ne me dégoûterez pas de Luis Mariano.
Je ne cherche pas à vous en dégoûter, ça me laisse froid.
Oh, il chante tellement bien.
Pas de paroles, mais des actes.
Allons, allons, voulez-vous finir? N'importe qui peut vous...
Oui. Naturellement, mais n'importe qui peut ne pas venir aussi, c'est ça le charme du truc.
Vous dites toujours des choses que personne ne comprend.
C'est pour ça, c'est parce que je suis idiot en parole que je préfère passer aux actes. Excusez grandement le camarade Léon Plantin. Il est là, oui?
Il arrive tout de suite, monsieur. Et si vous voulez passer par là, il va vous rejoindre tout de suite. Il m'a fait peur, celui-là.
C'est le général Korkilov.
Il m'a fait peur, quand même.
Il a un bel uniforme.
Il vous irait mieux qu'à lui.
Et peut-être bien. Désolé, est-ce que Léon Plantin est là? Il m'a prié de passer ce matin.
Mais oui, monsieur, mon général, please, par ici. Very well, par ici.
Merci bien. Francine est revenue à sa table et travaille. Le rideau se lève sur la salle de réunion. Camarade Ching, très heureux de vous voir. Mais c'est Chin, eh bien, c'est une surprise. On vous rencontre donc chez Plantin. Je m'appelle Ching Ting Ting, si ça ne vous fait rien. Oh, désolé. Mille regrets, camarade. Ce n'est rien.
Je vous prie humblement d'excuser cette petite manie, mais je ne suis pas moins étonné de vous que vous de vous voir, général Korkilov. Quelle bonne mine, cher Jackson. Vous êtes comme toujours resplendissant. Au fait, vous vous connaissez, Korkilov, Jackson.
Je crois nous avons hélas déjà rencontré dans l'ambassade Saint-Marin.
Saint-Marin ou Andorre?
Je ne sais plus, Nietzsche vaut une ambassade vaut une autre, et les Américains, il y en a partout.
Je suis heureux que ma très humble personne ait été le trait d'union de deux héros.
Héros, vous exagérez.
Oui, c'est trop, Ching. Après tout, le général Korkilov n'a rien d'un héros.
Oh là là, vous êtes très malin, vous voyez. C'est le plan Marshall qui vous fournit astuce.
Allons, un peu d'humour, camarade.
Humour? D'abord, humour, c'est ingénieur Boblitchkin qui a inventé en 1713 à Moscou. C'est scientifiquement prouvé.
Mes amis, ne laissez pas vos langues vous entraîner au-delà de votre pensée.
Comme si sa pensée américaine.
Malheureusement, oui. Mais si nous parlions un peu de ce qui nous amène ici, car je suppose qu'on nous a convoqués pour quelque chose. J'ai personnellement reçu un avis express de mon ambassade me demandant de venir à la disposition de Léon Plantin pour une conférence urgente.
Moi aussi.
Moi aussi. Une conférence sur quoi, à votre avis? Je vois naturellement, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions et vous vous rendez compte des difficultés de ce projet?
Avec grande précision.
Très nettement.
Eh bien, vous êtes plus avancé que moi parce que je me demande vraiment ce que nous veut Plantin. J'allais le dire, oui.
Vous ne nous laissez rien, Ching. Vous nous trouillez les mots de la bouche. Évidemment, je suis mal placé pour deviner ce qui se passe dans l'âme pleine de mystères d'un occidental comme Plantin.
D'ailleurs, Franzouski ne savent jamais ce qu'ils veulent, et c'est Russes qui ont inventé automobile.
Et ils n'ont pas de salle de bain dans les hôtels. Messieurs, Léon Plantin n'est pas là. Nous l'attendons.
Ces civils n'ont aucun sens de l'exactitude. Très juste, oui.
Oh, il est à peine à l'heure. Ils n'ont aucune discipline. Ce sont des civils, ils en ont moins besoin.
Vous n'allez pas les défendre, tout de même. C'est ça, côté assommant généraux américain, c'est côté civil.
Ils n'ont pas cette tradition séculaire qui fait l'orgueil des cadres uniques que nous avons en Europe. Permettez, je m'excuse très profondément, mais nous nous battons également depuis assez longtemps en Asie.
Certes, je n'avais nullement l'intention. Et puis, vous avez inventé la poudre. Pas vrai, c'est le pop Schwartzky au Moyen-Âge, un stakhanoviste.
Bon, eh bien, civil ou pas, cette fois Plantin est en retard, d'accord, mais dites-nous, cher Audubon, vous sauriez peut-être pourquoi on nous réunit? Ça, c'est leur côté pratique, c'est ce qu'ils ont de bon. C'est que le secret militaire...
Ah bon, alors il s'agit de guerre. D'habitude, on convoque pour tellement les choses... Vernissage, Sakouski, impossible de deviner. Il s'agit de guerre dans une certaine mesure, mais ça n'a pas très grande importance. Ce qui compte surtout, c'est ceci, à quoi j'ai beaucoup pensé. Voilà, ne croyez-vous pas qu'il y aurait intérêt, avant qu'il ne soit trop tard, à faire voter une loi internationale stipulant qu'en cas d'inculpation de crimes de guerre, tout général accusé sera jugé par ses pairs.
Écoutez, à Nuremberg, les généraux n'ont pas beaucoup écopé. N'importe. La seule possibilité d'être jugé par des civils, c'est déjà embêtant. Votre projet pourrait présenter quelque intérêt? Soutenez-moi, si jamais la question vient sur le tapis. Bonjour, mes enfants. Francine, tout est prêt?
Ces messieurs sont là, monsieur Plantin.
Comment, déjà? C'est vrai que je suis en retard. Ils sont tous là?
Il y en a quatre, monsieur Plantin. Tous des généraux, je crois.
C'est bien ça. Il n'y en a que quatre. Vous êtes sûr?
Oui, monsieur Plantin. Du moins, il en est entré quatre.
Oh, ça ne se reproduit pas si vite. Dites-moi, quel est le pluriel de un général?
Je ne sais pas, moi. Des généraux.
Dégénéré. Un général dégénéré. C'est comme pour les maréchaux. Un maréchal, des maraîchers. C'est idiot, hein?
Oui, Plantin. Oh, pardon, monsieur Plantin, je voulais dire.
Prenez le registre spécial et venez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore de laisser souffler l'esprit de Boris Vian sur Achaïra. Et rendez-vous pour la suite, jeudi 14 juin. Bonsoir.
Merci, Denis.
Merci, oui, l'esprit de Boris.
J'ai rencontré des meufs que j'ai su éviter.
J'ai pas choisi la bonne chanson.
Je crois que la chance n'est pas de ton côté. Si les hommes viennent de Mars et les femmes de Pigalle, t'as trouvé la plus dingue des espèces infernales. T'as vent pour Kido classe. T'as Cendrillon taré, bien d'un autre univers. Vu les traces de trous noirs sur sa chaussure de verre. Elle court dans tes couloirs, elle rue dans tes converses. Elle t'entraîne en hurlant dans des voix qui s'inversent. T'as vent pour Kido classe. C'est une brise burne, une case burette, un cauchemar diurne, une trouble fête, une tornade en croco qui s'échauffe au bazo, en vibration néfaste, t'as vent pour kilo classe. Tu n'es pas fatigué d'offrir tes vieux démons à cette fille des 60s qui traîne avec ton nom. Plus vive qu'un mocassin dans la boue du bayou. Elle prend ton énergie sur un rythme vaudou. T'as vent pour kilo classe. Elle te couvre les yeux d'une peau de panthère noire qui t'empêche de penser et qui t'empêche de voir. La vérité enfin, c'est la réalité de ce que tu seras quand elle t'aura vidé. T'as vent pour kilo classe. C'est une brise burme, une case burette, un cauchemar diurne, une trouble fête, une tornade en croco qui se chauffe au bazo, aux vibrations néfastes. T'as vent pour kilo classe. Si elle perd sous la pluie, ses clopes et sa barrette, ta gorgone se transforme en furie sous enfer. Et j'en deviens baba et les 40 voleurs sous ses yeux de sorcière et de ventilateur. T'as vent pour kilo classe. Toujours à critiquer, toujours à raconter quelques sordides horreurs sur tes amis passés. Elle t'entraîne dans un gouffre aux multiples rancœurs, d'où je préfère m'enfuir en te laissant l'honneur. L'honneur de lui chanter. T'es une brise burne,
cauchemar tire les troubles faites. Une tour d'un entrepôt qui se chauffe aux binzons en vibration néfaste. T'es une brise burne, une casse-murette. Un cauchemar dure d'une trouble fête. Une tour d'un entrepôt qui se chauffe aux binzons en vibration néfaste. T'avant pour kilo, t'avant pour kilo plasme. T'avant pour kilo, t'avant pour kilo plasme.
C'était Hubert Félix qui interprétait Davamp Orchidoclaste. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10, c'est l'émission Achaïra. Donc là, moi, j'ai préparé un petit topo là, sur un truc qui s'est passé aux États-Unis, plus précisément à l'Académie américaine de sciences, qui organisait le 10 mai un sommet sur les plantes génétiquement modifiées et résistantes aux herbicides. La source, c'est un article du Figaro. On a les sources qu'on peut. Donc, ce fut une réunion de crise, car les agriculteurs américains ont l'impression d'avoir été floués par les semenciers qui leur avaient dit qu'avec les OGM résistants aux herbicides, ils n'auraient jamais plus de problème avec les mauvaises herbes. Pour cela, il leur suffisait de pulvériser du glyphosate, une molécule créée par Monsanto, qui est aujourd'hui dans le domaine public. Et avec ça, c'était la tranquillité. Un seul passage pour tout détruire, sauf les cultures dotées d'un gène de résistance. Alors au début, ça a été très bien. Les agriculteurs ont bénéficié de tous les avantages de ce système. Rendement meilleur, temps de travail réduit, coût réduit. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chanson. Les mauvaises herbes deviennent résistantes, elles aussi, au Roundup. Elles se multiplient très vite. Elles envahissent les champs de soja, de maïs, de coton, de colza. 8 millions d'hectares infestés. Comme l'explique M. Reboux, qui travaille à l'INRA de Dijon, avec les herbicides, il se passe la même chose qu'avec les antibiotiques. À les utiliser trop souvent et systématiquement, ils perdent leur efficacité car les plantes développent des résistances. Cette personne n'est pas surprise donc par ce qu'il se passe. Elle s'attendait même plutôt à ce résultat. Donc les OGM ont fait exploser la consommation de ce fameux produit, le glyphosate. Elle est passée dans les champs de maïs de 1 million de tonnes 800 en l'année 2000 à 30 millions de tonnes l'année dernière, donc 15 fois plus. Voilà. Et chaque année, de nouvelles plantes sauvages développent des résistances. Leurs mécanismes de défense sont efficaces et une fois sélectionnés, ils sont transmis à leurs nombreuses descendances. Il y en aurait plus de 380 espèces. Alors, pour faire face à la situation, les industriels ont des bonnes idées. Ils projettent d'associer d'autres herbicides, ce qui, bien sûr, va accroître la pollution, et d'ajouter un nouveau gène de résistance dans les plantes cultivées. Et la même personne de l'INRA dit « Ils abusent des gens en disant que c'est une solution. » Les plantes vont devenir résistantes aux deux herbicides, etc., etc. Et ce n'est pas terminé. Des alternatives aux OGM sont déjà recherchées. Des moissonneuses-batteuses, capables de trier à part les graines des mauvaises herbes et de les broyer, sont testées en Australie. La maîtrise des mauvaises herbes demandera sûrement plus de travail. Voilà où nous mène l'impasse des OGM dans une surenchère permanente de traitements auxquels les plantes trouvent toujours moyen de résister. Et donc, les agriculteurs, bien sûr, sont perdants, les consommateurs sont perdants. Qui est gagnant ? vous avez gagné Monsanto. Voilà. On passe à l'agenda.
Sur les OGM, oui. On peut dire qu'il y a l'actualité aussi en France, c'est les tomates qui vont passer en OGM. Donc c'est a priori ce qu'il nous dit, c'est que pour l'instant il n'y avait que le maïs BT, je ne sais plus combien, qui avait été autorisé et qui bénéficie d'un moratoire. Sauf que par contre, il y a des études, enfin plus que des études, hein, je pense que je voyais tout à l'heure, c'est des 18% de la production des tomates au Canada et de nature OGM. Et puis surtout, je crois que c'est à Toulouse, hein, qu'on a trouvé, on a séquencé le génome de la tomate. Voilà, donc ça c'était assez récemment. Hein, plusieurs équipes de scientifiques sont parvenues à séquencer le génome de la tomate. Grâce à cette avancée, donc le coût... c'est une mine pour tous les pour la recherche quoi. 35 000 gènes ont été trouvés et donc c'est l'INRA. Alors je vois en collaboration avec le consortium du génome de la tomate, le Tomatogénome Consortium, qui sont parvenus donc à séquencer le génome du fruit. Et donc, on se dit que ces 35 000 gènes-là, c'est bien le diable s'il n'arrive pas à jongler, à faire des combinaisons pour faire des tomates comme ils veulent. Voilà, enfin bon, c'est... on sait que les pommes de terre, les poivrons, les aubergines, c'est la même famille. Et donc, ils sont la première source de légumes dans le monde. L'ensemble de ces quatre fruits et légumes, en quantité produite, en valeur économique, et donc, évidemment, on se dit que l'INRA de Toulouse, justement, ne laisseront pas passer une telle opportunité de carrière. Là encore, on va avoir des choses à défendre, je crois.
Oui, et puis c'est... Je sais qu'en Inde, il y a une offensive aussi de Monsanto, l'Imagrain, pour avoir accès au patrimoine, aux espèces qui sont conservées depuis de nombreuses années et dont l'État se désintéresse. Donc il y a un sérieux danger sur de plus en plus de production potagère. Et il va falloir être plus que vigilant et le dénoncer, bien sûr, le faire savoir.
Parce que la situation paradoxale, c'est qu'aujourd'hui, une découverte scientifique, c'est un drame, quelque part. Parce que ce qu'on pouvait se dire, c'est bien, on acquiert de nouvelles connaissances pour tout le monde. Et dans la société avec laquelle on vit, on sait que de nouvelles connaissances... c'est les moyens d'exploiter encore plus,
d'asservir
plus. Ouais.
D'asservir, de mettre en danger les populations au niveau de la santé et de l'environnement, c'est sûr.
Donc il y a urgence à sortir de ce monde, parce que je pense qu'on ne peut pas non plus d'un côté glorifier le... on veut savoir de moins en moins de choses, vu comment ça... On sait que c'est utilisé, je pense que ou à changer les utilisateurs de la pensée, ou à arrêter de penser. On continue, j'ai pas nécessairement d'agenda très précis actuellement, sûrement. Sûrement il y en a, mais par contre je voulais revenir, puisque le programme du festival de cet été de J'aime la Résistance s'éclaircit un petit peu, c'est-à-dire qu'on y voit un peu plus clair. Donc J'aime la Résistance lance un appel européen pour un été enragé. Commence ainsi, si les élections... pouvait changer le monde, elle serait interdite depuis longtemps. Donc le festival J'aime la Résistance se veut un lieu d'échange, d'information, de résistance et de soutien aux luttes. Cette année encore, en 2012, le festival sera placé sous le signe de la résistance au capitalisme, à la destruction pour le profit, à la résistance au fascisme, aux doctrines sécuritaires et à toutes les idéologies mortifères qui nous empêchent de vivre ensemble. Résistance aux grands projets inutiles comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le train à grande vitesse LGV ou le TAV en Italie. Le gaz de schiste ou le nucléaire ne sont que des exemples des luttes mises en avant cette année et nous luttons tous pour le même idéal, la fin des pouvoirs, une terre respectée, un monde de partage. Voilà un beau programme pour ce festival qui aura lieu les 6, 7 et 8 juillet 2012 à Sanguinet. Il s'intitule le Festival Landais qui résiste et donc qui a cette année un petit peu fignolé sa programmation artistique. Puisque la programmation plus large, c'est qu'ils la définissent comme endiablé, c'est un village associatif, c'est des débats, c'est des concerts, c'est du cirque, c'est du théâtre, des ateliers, des projections, des expositions, du spectacle de rue. Donc une invitation à s'amuser, à être curieux, à s'informer, à prendre plaisir. Donc à faire comme eux de la résistance. Donc il y aura ZEP, je ne me rappelle plus comment il se présente. ZEP, c'est ZEP, zone d'expression populaire, voilà. Est-ce que là, il y a un morceau? Est-ce qu'il y a un morceau qui... Voilà. Et donc ensuite, il y a les fils de Tepu aussi, qui sont... à l'ordre l'invité. Il y a encore Mon Côté Punk. Il y a encore les Brassens Not Dead, qui est aussi un groupe punk toulousain. Et enfin, il y a, beaucoup dans la région les connaissent, La Collector. Il y aura des spectacles de clown et... ça commence donc le 6 juillet, le vendredi 6 juillet, à la salle des fêtes à 19h, avec une projection du film Gazland, et donc une conférence débat sur les gaz de schiste. Bon, on essaiera dans le mois de juin de les avoir au téléphone pour qu'ils nous expliquent, parce qu'apparemment, on n'est pas dans un projet à venir, hein, on est vraiment dans un projet présent. C'est une région où il y avait déjà eu de l'exploitation pétrolière. Et donc là, les nappes de surface, on va dire, ont été vidées. Et donc, ils envisagent de pomper le pétrole de schiste.
Ah bon.
Et donc, c'est pas la technique qui est interdite, ça sera pas le fractionnement. Donc, il n'y a pas besoin d'autorisation. Et donc, ça, ce projet de pomper sous la couche schistique de le pétrole est quasiment prêt. Or, on sait très bien que la nature ayant horreur du vide, il y a des chances que la mer rentre dans soit absorbée par, aspirée par, enfin, il y a sûrement d'autres choses. Donc voilà, il y aura Chantal Viala de l'association No Gaz Aran qui informera et qui se bat contre les gaz de schiste. Le samedi 7 juillet, ça commencera à 11h avec une déambulation artistique sur le marché et puis des clowns à 15h avec l'Académie Fratellini, d'autres spectacles pour enfants et grands, moins grands, des ateliers de construction de musique, une université bazar sur l'histoire du son et le son de l'histoire, une conférence avec Bernard Friot sur la dette et sur les salaires, donc ça c'est samedi 7 juillet à 17h30, avec une projection du film Kata Troïka, la dette en Europe et en Grèce, ou comment solder un pays. Ensuite, un atelier de fabrication de savon, avec 100% Gironde et la cagette des étudiants. Ensuite, un théâtre du silence, donc un mime Nicole Marceau, plein d'autres surprises. Et puis le soir, 19-20h, fanfare et bombasse, c'est Paris désert, du rock français engagé en provenance de Sanguinet, Idiogramme, rock expérimental, qui est une découverte du printemps de Bourges, 22h15, 23h, Kick, qui est du pop-rock seul en scène, 23h15, minuit 15, Bon, pour l'instant, ils le mettent en groupe surprise. Ils n'ont pas dû encore organiser toutes les cases du programme. Le dimanche 8 juillet, 15h, donc il continue avec Expression. 15h-17h30, des initiations aux actions de désobéissance civile, des techniques non violentes de résistance. Toujours du spectacle pour enfants avec l'association Les Sacs à Billes. Toujours carte blanche au clown avec l'Académie Fratellini. Et puis là, c'est à 17h30 un débat avec Patrick Bouveret sur le nucléaire militaire, nuke militaire. En rapport avec le centre d'essai, les lancements de missiles, EADS, Mégajoule, le renouveau du militaire français et Made in Aquitaine. Voilà, n'oublions pas, bien sûr, que l'économie de l'Aquitaine est grandement inspiré notre survie dépend de la mort des autres, dirait-on. Donc peut-être il y a moyen de se reconvertir et de vivre en paix. Dans les concerts, à partir de 17h30, c'est La Collector qui se présente comme une fanfare électrique déjantée punk rock. ZEP, zone d'expression populaire, en suivant. Ensuite, à 20h15, Mon Côté Punk, co-créé par Mourad de la Rue Quétano, groupe indépendant de la scène française. Ensuite, 21h45, on continue, Brassens Not Dead, punk rock, reprise des punks, des chansons de Brassens. Et ensuite, on finit la nuit avec les Fils de Tepu, Fanfare Ska, mais oui, c'est bientôt, de 23h à minuit 15. Et l'ensemble des artistes joueront après, jusqu'à plus tard, voilà. Village associatif toujours, donc ça c'était le dimanche 8 juillet, Village associatif, le cœur du festival, les associations Mathieu de Salles, la cagette des étudiants, Anaïs Morisset, une exposition sur Mayotte et bien d'autres. Mayotte, on en reparlera avec eux. Je pense que le cercle essaiera de tenir une table dans ce village associatif, d'y être présent. Parce que on aime bien les gens qui organisent ce festival. Et puis, c'est un moyen de vous y rencontrer si vous passez par là.
Donc ça, c'est 6, 7, 8 juillet.
Voilà, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet. C'est le premier week-end de juillet 2012, donc c'est facile à retenir. Voilà.
Moi, j'ai noté un spectacle de Christian Leduc à Créon, le 23 juin. Vous savez, c'est Christian Leduc, c'est un mec qui chante, il a une guitare. Et il dit ce qu'il pense et c'est bien. Nous, on l'aime bien. Je ne connais pas le lieu exact à Créon, mais vous allez sur le site, tapez Christian Leduc ou Créon. Je pense que... Mais de toute façon, d'ici le 23, je crois qu'on a une émission le 14 juin. Oui. 14, donc on donnera plus de précisions. D'autant que Christian Leduc se produit pas... Surtout en Gironde,
il est en Bretagne, en
Belgique, dans les Alpes du Sud. On vous reparlera de lui. Donc, à la prochaine émission, le jeudi 14 juin. Je crois que. Est-ce qu'on a d'autres infos?
Pas précisément. Il y a le vendredi. Demain, il y a un procès. Un faucheur volontaire, David, qui a voulu mener une action un petit peu solitaire et donc qui sera poursuivi demain devant les tribunaux. Il y a des lettres de soutien. Et puis surtout, c'est qu'il doit être saisi parce qu'il n'a pas les moyens de payer les jours amendes qu'on lui demande. Et donc sinon, il va être incarcéré. Le niveau des. Je pense. On vous reparlera sûrement des procès, de la répression des militants. Quand il y aura des actions en soutien, c'est possible qu'il y ait des actions par rapport au boycott des produits israéliens dans les jours qui viennent. On tiendra au courant.
Donc, rendez-vous à la prochaine émission le jeudi 14 juin, à partir probablement de 21h encore.
Voilà, donc ce sera le 134e d'Achaïra. Voilà.
Bonsoir.
Allez, bonsoir.